Alors que la Paris Games Week ouvre ses portes, la fine équipe d'ORLM s'intéresse à Apple Arcade. Que vaut le service par abonnement de jeux vidéo de la pomme? Est-il trop cher? Va-t-il faire de l'ombre aux géants du secteur? Quels sont les titres qui valent le détour? Débat.
Le mât.
Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemac.com et sur notre app iOS ORLM pour l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV, mais également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcast. Et vous retrouvez également une version audio d'On refait le Mac sur Spotify, Deezer et Tune in avec comme chroniqueur ici en plateau que du moment pour nous parler d'Apple Arcade et des jeux vidéo avec, pour commencer, un journaliste figure des jeux vidéo pendant très longtemps sur Canal+, Fred Moulin. Bonjour Fred, comment ça va?
Bonjour Olivier, ça va très bien.
Oui, tu viens juste tout juste d'ouvrir ta chaîne YouTube.
Effectivement.
Donc il faut se précipiter pour s'y abonner.
Voilà, mon compte Twitter ou le Facebook, voilà, j'essaye de communiquer un petit peu sur voilà. Ça en travaillant sur des petits projets pour le moment dont je ne peux pas encore parler.
Bon, j'espère que tu pourras venir nous en parler dans ce plateau. En plateau également, à tes côtés, Fabien Delpiano. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Fabien, tu es le dirigeant de Pasta Games, hein, ce qui a porté Rayman Legends sur Apple Arcade. Donc tu es plutôt bien placé pour nous parler des services de jeux vidéo par abonnement de la pomme. Tu peux un peu nous en parler, c'est pas trop secret.
Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas. Bon. Posez-moi des questions, on verra.
Tu as eu la chance de rencontrer Tim Cook lors de la visite du studio d'Ubisoft à Montpellier il y a quelques semaines lorsqu'il était en France. Tu nous en parleras tout à l'heure. En duplex depuis sa Corse natale, depuis Bastia, Laurent Pantanache chez Dixbrand. Bonjour Laurent.
Bonjour Olivier, bonjour On refait le Mac. Et je suis désolé de ne pas être en plateau, mais le plateau est tellement beau aujourd'hui. Et le fait d'être à distance, j'ai pu mettre un t-shirt avec du verre
voilà,
dessus. Parce que... Donc voilà, je le suis... Oui, et il fait beau, le ciel est bleu.
Voilà. La prochaine fois, tu te mettras au bord de l'eau pour faire l'émission. Écoute, là, on n'entend pas les vagues, mais la prochaine fois.
Allez,
j'espère, je compte sur toi. On enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était, avec Arcade, Apple va-t-elle plutôt faire de l'ombre aux géants des jeux vidéo? Vous étiez... 87% à répondre non contre 13% de oui. Alors, c'est mal barré pour le début de cette émission, Fred. Vos réactions à ce sondage, en tout cas, ils sont pas persuadés d'un tweetos de la percée d'Apple face aux géants du secteur. Ce qui inspire d'ailleurs, regardez un tweet de Nico sur le compte On refait le Mac et l'hashtag ORLM Mac. À mon sens, Apple Arcade et les géants des jeux vidéo sont plus complémentaires que rivaux, chacun s'attaquant à des profils différents de gamers. Le gamer, c'était la remarque qu'on s'était fait ensemble, Fred, en préparant cette émission. On a tendance à penser que les jeux d'Apple sont des jeux pour mobile, parfois des jeux considérés comme des jeux de seconde division. C'est un peu plus compliqué que ça.
C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que aujourd'hui, finalement, le jeu vidéo a plusieurs plateformes pour s'exprimer. Et donc, il y a les jeux sur les consoles, sur les PC qui demandent beaucoup de puissance. Mais il y a aussi aujourd'hui plein de studios indés ou même des gros studios qui font des jeux qui peuvent tourner sur les tablettes et qui sont finalement aussi divertissants. Donc je pense que Apple peut trouver une place là-dedans et il y a quand même 13% de gens qui pensent que ça peut et je pense qu'ils vont
essayer
petit
de faire
monter
un petit peu le score d'ici la fin de l'émission.
Ils vont grignoter des parts de marché, ça j'en suis certain.
Fabien, au-delà, en tant que développeur, est-ce que tu trouves que le casual gaming c'est pas un secteur noble pour les jeux vidéo? Je pense que non. Hein.
Alors, étonnamment, je trouve que Apple Arcade ne fait pas du tout du casual gaming. Ils ont eu, si vous avez regardé le line-up de ce qui est sorti, ils ont sorti beaucoup de jeux exigeants, beaucoup de jeux indépendants, beaucoup de jeux avec beaucoup de personnalité, beaucoup de jeux qui prennent des parties très très forts sur la narration, sur les gameplay, avec beaucoup d'originalité, sans faire... C'est le contraire même du freemium, dans lequel on étudie comment faire pour que le joueur clique le plus souvent en haut à droite, puis en bas à gauche, à tel rythme, et à la fin, clique sur un bouton pour acheter des choses, regarde la pub. Là, c'est un jeu qui... Tous les jeux sont des jeux d'auteur qui ont vraiment une vision, qui proposent une vision, qui font une promesse, avec un univers graphique qui n'est pas toujours au goût des gens. D'ailleurs, quand on regarde les réactions, il y a beaucoup de gens qui ont des réactions épidermiques parce qu'ils n'ont rien fait pour avoir des petites couleurs acidulées, pour faire venir les joueurs. Donc, pour moi, Apple Arcade, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais quand, parce que nous-mêmes, si on a fait un jeu Apple Arcade, on ne savait pas ce que les autres faisaient. Quand j'ai vu le line-up, j'ai fait « Ok, en fait, ils sont allés chasser sur les terres de tous les indies à la mode du moment qui ont des univers, qui ont des propositions, qui galèrent pour trouver un public, qui vont sur Steam, qui vont là où ils peuvent. » C'était un peu les genres de jeux qu'on trouvait à l'époque quand ils avaient sur PS Vita, il y avait l'équipe de Strategic Content à Londres, dirigée par Shahid Ahmad, qui était allé voir les gens qui faisaient des jeux sur Steam et qui leur avait dit
la mais PS venez. Vita, parce qu'on n'a pas forcément un public de. Bon, il y en a beaucoup qui sont des gamers, mais Fred, PS Vita, c'était la console portable.
La deuxième console portable de PlayStation. Bon, on peut pas dire qu'elle ait eu un succès phénoménal.
Elle a marqué pas mal des esprits.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'était une console qui au départ avait été lancée comme une console Sony, donc une console pour des petits triple A mobiles qui finalement n'a pas marché, donc les triple A se sont enfuis en courant.
Un triple A résume aussi ce que c'est un triple A.
Donc c'est des jeux à gros budget, ouais, voilà. C'est des jeux qui coûtent 50, 100 millions d'euros à fabriquer, ouais. En plus. Et donc, devant le désintérêt suite, complet ouais. des gros studios pour cette petite console, ils se sont dit, mais elle vient d'être lancée, elle a un an, deux ans de vie, on va encore la faire durer quelques années. Qu'est-ce qu'on peut lui donner à manger pour que les joueurs ne nous la jettent pas à la figure en nous disant, on l'a acheté, vous en avez fait quatre jeux. Quoi. Et donc, ils ont donné une enveloppe à une équipe anglaise de Strategic Content en leur demandant d'aller remplir le store avec des jeux pas chers. Et donc, il y a une équipe formidable de 4 personnes, qui est donc dirigée par Shahid, qui est allée sur Steam, qui a pris les meilleurs jeux indépendants de Steam et qui leur a dit, on vous fait des chèques pour faire le portage Vita, on vous donne des minima garantis. Et du coup, on a vu débarquer sur la PS Vita tout un tas de jeux indépendants auxquels on ne s'entendait pas du tout et qui ont fait les choux gras de tout un tas de joueurs comme moi qui n'avaient pas le temps de faire ces jeux-là sur Steam parce qu'il fallait être à la maison, sur le PC. Et en revanche, on avait beaucoup de temps de transport. Et moi, j'ai fait la moitié ou les trois quarts des jeux indépendants de cette époque-là, je les ai fait sur la Vita. Ouais. Parce que c'était un format qui était beaucoup plus agréable pour jouer à ces genres de jeux.
Et tu es un hardcore gamer, on peut le dire comme ça, a priori.
Je mange de tout en jeux vidéo. Ouais, je suis client de triple A énorme à la Spider-Man ou à la Red Dead Redemption comme des tout petits jeux indépendants extrêmement obscurs.
Au-delà, Fabien, tu as raison, il n'y a pas que du casual gaming, mais en préparant cette émission, tu me disais, Fred, que c'est aussi un genre majeur et même le genre préféré des Français aujourd'hui.
Finalement, oui, là, il y a une étude du CEL qui est sortie, donc il y a peu de temps, on voit que 41% des genres de jeux préférés des Français sont les jeux mobiles ou le casual game. Alors ça un peu tout dire, hein. Je ne sais pas trop comment on définit ça. Mais...
C'est un fourre-tout, quoi.
Ouais, mais effectivement, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les gamers jouent, ils ont aussi leur smartphone dans la poche toute la journée, ils ne sont pas toujours devant leur console. Et donc, ils consomment aussi du jeu sur leur smartphone. Donc c'est pour ça que je pense que c'est cette idée d'essayer de mettre en avant autrement les jeux vidéo, parce que le problème de l'App Store, c'est qu'on a des applications et des jeux qui sont tous mélangés et que c'est pas très bien fait pour retrouver un jeu. Et finalement, de créer ce label arcade et ce système d'abonnement, c'est peut-être mettre des jeux d'une autre manière en avant. Et effectivement, je rejoins... Fabien, sur le fait qu'on a quand même des jeux qui sont de qualité et qui sont effectivement débarrassés en plus de ces choses parasites qui peuvent être la publicité.
Justement, regarde, ça inspire une réaction sur Twitter de Sébastien. D'abord, il cible Nintendo comme principal rival potentiel à Apple dans les années qui viennent, surtout Nintendo. C'est vrai que Nintendo fait aussi du casual et des jeux un petit peu mobiles comme ça, et sur iPhone aussi. L'iPhone n'a pas la puissance pour rivaliser avec les autres grande console, j'imagine. Hein. C'est clairement une révolution, en tout cas, Apple Arcade. Adieu les jeux freemium ou les jeux hors ligne auxquels on ne peut plus, on ne peut pas jouer hors ligne. Et autre réaction sur le Twitter de Hertz, je vois aussi Arcade & Co. comme une opportunité pour l'industrie de sortir du modèle des achats in-app qui pullule sur les stores depuis trop longtemps maintenant. Quel est ton avis, Fabien ? C'est vraiment un tournant. C'est vrai qu'on a vu énormément de jeux mobiles, mais gratuits. Est-ce que c'est la fin du freemium ?
Je pense que c'est pas la fin du freemium, parce que je pense qu'il y a une catégorie de gens qui a ancré dans le fond du crâne qu'un jeu vidéo c'est gratuit. Ce jeu-là, ces gens-là, on les rattrapera jamais. Ils sont partis pour, j'ai beaucoup plus de jeux vidéo gratuits à disposition que de temps pour y jouer. Pourquoi est-ce que j'irais payer pour un jeu ?
Bien sûr.
Donc ceux-là, je pense que nous on n'a plus rien à leur raconter parce que nous on n'ira pas dans le freemium. Donc il y a un certain nombre de gens qui font des jeux indépendants qui se sont dit que faire des boîtes de skinners, c'était pas leur métier. On n'est pas là pour prendre des petites souris et les faire tourner dans des cages. Donc on s'est dit, le freemium, c'est pas pour nous. Et donc on est parti des jeux mobiles pour aller faire des jeux sur console, des jeux sur PC. La Switch était une bonne opportunité. Et en fait, on a migré vers des terres plus accueillantes pour nous. Et là, l'Apple Arcade, c'est une manière de nous dire, non, attendez, peut-être vous pourriez revenir, parce que, bien sûr, vous ne pourrez pas être compétitif par rapport aux jeux gratuits, parce que rien n'est moins cher qu'un jeu gratuit. Mais peut-être qu'à côté, on va vous faire un petit terrain de jeu dans lequel on va vous laisser faire des choses.
Et au-delà, et vous pouvez répondre ensemble, hein, si vous le voulez, est-ce que le freemium, c'est pas une bonne chose pour un éditeur? Est-ce que ça limite ta créativité? Alors, on sait que ce n'est pas forcément une bonne chose pour l'utilisateur, parce qu'il est sollicité... en permanence, mais est-ce que pour toi, c'est un domaine où tu n'arrivais pas à t'exprimer, le freemium?
Alors, ça dépend si c'est une bonne chose pour l'éditeur ou pour le studio. L'éditeur a plus intérêt à ce que ça marche économiquement, et son métier, c'est d'arriver à faire marcher économiquement une création.
Bien sûr.
Et le studio, généralement, a une envie d'exprimer quelque chose, a une envie d'amener les joueurs dans un certain état d'esprit, de lui communiquer quelque chose au travers du jeu. Le freemium est le pire outil du monde pour essayer de faire passer un sentiment, de faire passer D'accord. une histoire, d'imposer un rythme plus lent, dans lequel, parfois plus lent, parfois plus rapide, de mettre des difficultés aussi, qu'on va être content de dépasser, au moment où on va les dépasser, on va ressentir quelque chose de merveilleux. Le freemium se prête pas du tout à ça, parce que le freemium est fait pour être consommé rapidement, pour ne pas opposer d'obstacles, et pour donner, lorsqu'il y a un obstacle, l'envie de le dépasser, non pas en se dépassant soi-même, mais en sortant soit sa carte bleue, soit en acceptant de manger de la vidéo. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes sentiments et dans le même état d'esprit lorsqu'on aborde un jeu freemium que lorsqu'on aborde un jeu payant. Même moi, qui joue parfois aux jeux gratuits aussi, lorsque je joue à un jeu gratuit, je me transforme dans un consommateur de jeux gratuits et je ne suis pas du tout dans le mindset de me poser et d'écouter une histoire.
Tu penses que, Fred, que ça peut être un moteur de la création, ce type d'offre comme l'Apple Arcade aujourd'hui?
Ah oui, mais de toute façon, déjà, effectivement, on le voit dans la sélection. Moi, je trouve qu'on sent que j'ai même l'impression, alors je ne sais pas s'il y a eu des consignes qui ont été données, mais que ces jeux s'adressent un petit peu, alors peut-être par rapport à ceux que j'ai testés, hein, aux consommateurs, on va dire, cliché Apple. On va en parler après, mais il y a des jeux qui sont dans... On a entre le roman et le jeu, on a des trucs qui sont...
Très original.
On est, disons, dans des jeux qui proposent quelque chose, effectivement, d'assez créatif. Quoi,
alors, en fait. On va se tourner vers un joueur et un père de famille qui joue avec ses enfants, à savoir Laurent. Laurent, est-ce que le modèle par abonnement te semble, pour toi, personnellement, le bon? Tu as testé cette semaine Apple Arcade. Est-ce que tu penses qu'Apple va réussir à convaincre une population qui n'achète pas de jeux aujourd'hui de mettre la main à la poche, comme l'a illustré tout à l'heure Fabien?
Alors, j'ai pas testé cette semaine, j'ai testé depuis la sortie en bêta, hein, puisque j'avais accès à la bêta. Moi, je suis pas. Alors, c'est très intéressant parce que je suis pas un hardcore gamer comme ça a été énoncé, c'est-à-dire que la première console télé a fait son entrée chez moi il y a un mois, c'est une Switch. Et je l'ai acheté pour mes enfants. Je n'ai, de mon histoire d'enfant et d'adulte, jamais eu de console à la maison. Mon frère a eu une Nintendo 1. Mon frère, elle est 10 ans après moi. Hein, donc, je ne suis pas le gamer de la maison. En revanche, je me suis rendu compte au fil du temps que j'étais ce gamer de téléphone mobile. C'est-à-dire que j'ai pris la liste des applications téléchargées chez Apple depuis que l'App Store existe, hein, puisque j'ai l'historique, et j'ai téléchargé plus de 200 ou 300 jeux, donc ce qui est assez astronomique. Donc quand Arcade est sorti, je me suis dit, bah, tiens, c'est génial, je vais essayer de me rendre compte de ce que je veux. Alors j'ai quelques fois payé, hein. Il y a quelques jeux, donc le fameux jeu, le jeu vidéo me saoule. C'est-à-dire que la publicité dans le jeu, pour moi, casse vraiment
la dynamique.
Tu as envie de jouer pour jouer. Donc du coup, tu es obligé de te poser la question. Et c'est pour ça que je pense que ça s'adresse à... Il y a plein de publics de joueurs, et c'était bien expliqué tout à l'heure. Il y a le joueur qui va accepter de voir une publicité à un moment donné, parce qu'il n'a pas envie de payer. Et je pense qu'il existe. Après, est-ce qu'il est intéressant ou pas intéressant, mais il existe. Ce n'est pas mon cas. Moi, ça me saoule très vite. Et à l'inverse, je trouve que soit tu payes pour la qualité d'un jeu. Donc, je préfère payer un jeu qui va coûter 2,99, 4,99, 9,99 et prendre du plaisir à jouer et pas être interrompu au milieu, voire même payer pour supprimer la pub, que me retrouver finalement dans cette espèce de truc où tu es un peu pris tout le temps en otage. Du coup, Arcade, au départ, pour moi, c'était le truc génial et j'ai pas mal joué. Ce qui est très intéressant, c'est que mon expérience est la suivante. Un, le line-up est hyper divers et c'est assez étonnant. Il y a un peu de tout. Je me suis en plus rendu compte de ce que j'aimais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en regardant les jeux que j'avais téléchargés par rapport aux familles Apple, j'aimais les puzzles. Okay, donc j'ai aimé solutionner des trucs, donc j'ai pas mal. À l'inverse, et mon fils qui a commencé à me dire « Ah mais super, tu as plein de jeux, on peut avoir autant de jeux qu'on veut », il lui a commencé à regarder, alors bon, il a fait un bond sur Rayman Mini, hein, dans ses géniales, tout ça, donc c'est assez marrant. Et du coup, je pense que le public que peut trouver Arcade et Dual, ça peut être mon cas, de la personne qui dit finalement « je paye un petit abonnement », tu vois, je trouve pas que c'est pas excessif, c'est pas mortel de dire que tu payes 5 $, 5 €, arrondi, hein. Ouais. Avoir de la nouveauté.
Ouais. En gros, pour le prix d'un jeu que tu achèterais par mois, tu as des jeux en illimité, 5 €. Voilà, ça semble assez raisonnable quand même. Mais effectivement, il faut donner envie aux utilisateurs de mettre la main à la poche. Ce qui est plutôt un bon signe, c'est que de manière générale, le système par abonnement semble se généraliser, Fred, avec, on l'a vu avec Sony. On a vu que Google a enchaîné avec son Play Pass également quelques jours après l'annonce d'Apple. Donc ça semble être la tendance. Hein, plus de 350 jeux pour Google, sans pub. 4,99 $, donc ils sont alignés sur Apple. Encore une fois, le premier mois est gratuit, donc essayez, vous verrez, ça ne nous engage à rien. Il faut juste penser à se désabonner à la fin du mois.
Bref, Olivier, c'est
sûr. Oui.
Il y a juste, et ça sera ma conclusion sur ce, j'ai repris la parole, mais il y a une chose que je trouve intéressante, c'est que potentiellement, et c'est là où Apple a peut-être joué un coup pas mal, c'est que la cible, elle est duale. Je m'explique. Ouais. Moi, je joue à des jeux auxquels mes enfants n'ont pas envie de jouer, et j'en citerai quelques-uns tout à l'heure. Et par contre, mes enfants jouent à des jeux auxquels moi, je n'ai pas forcément envie de jouer. Donc du coup, sur mon téléphone, on se retrouve avec potentiellement deux publics quand il y a des enfants en bas âge. Hein. Mais qu'il y a potentiellement deux publics. Donc c'est peut-être une façon aussi de se dire « Waouh, je prends l'abonnement pour une certaine tranquillité. » Je ne suis pas du tout un adepte du téléphone qui devient la nounou numérique, hein, c'est-à-dire des enfants qui jouent au téléphone quand tu es au restaurant pour ne pas les entendre. Malgré tout, je pense que tu peux trouver un public là-dessus.
Ouais. Alors c'est surtout la qualité des jeux qui va faire la différence. Tout est là, hein, Fabien, notamment pour Arcade. Que valent les jeux de l'offre par abonnement d'Apple? Nous allons y répondre. Que vaut Apple Arcade? Alors, ça inspire déjà une réaction de Sébastien sur Twitter, qui considère que c'est un contenu de qualité clairement, avec des jeux comme Ocean Horn 2 ou de merveilleuses petites productions comme Inmost. Tu nous en parleras tout à l'heure, Fred. Est-ce que tu es d'accord avec Sébastien? Est-ce que, de manière générale, tu as été vraiment surpris par le niveau de qualité de production sur Arcade?
Oui, vraiment, je pense qu'il y a une sélection qui est faite. Avec des types de jeux que j'aurais peut-être pas trouvé moi-même ou que j'aurais pas testé si je les avais vus comme ça traîner sur l'App Store.
Au-delà, il n'y a pas de grosse artillerie, tu me disais ça en
préparant. Non, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas les Call of Duty, les fameux AAA. Je pense que déjà la puissance.
Creed, ou les GTA, des choses comme ça.
Voilà, la puissance de l'iPhone et de l'iPad limite un peu sa chose-là. Mais effectivement, on va le voir après, là, le fameux jeu dont on parlait qui est très inspiré de Zelda, là, le Ocean Horn. Visuellement, ça ressemble, c'est un peu comme c'est le Canada Dry, on va dire, du jeu. C'est plutôt, visuellement, ça marche. Après, bon, ça n'a pas la profondeur d'un Zelda. Je sais pas si tu l'as essayé, Fabien.
Je l'ai essayé.
Ouais, forcément, celui-là, il faut l'essayer pour quand on est un peu. Qu'en as-tu pensé?
Au-delà, Fabien, on a l'impression que les grands éditeurs vont un peu à reculons ou attendent. Comment tu expliques cela?
Je pense que c'est assez simple. Aujourd'hui, personne ne sait combien les jeux vont rapporter sur Apple Arcade. Donc des gens qui vont investir plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros dans un jeu vidéo et qui ne savent absolument pas du tout
combien ça va. Y compris sur mobile, hein, ça coûte aussi cher que ça.
Si on veut fabriquer un jeu qui ressemble à un GTA, ça coûte la même chose. Parce que le nombre de pixels maintenant sur les écrans est absolument le même. Ouais. Et il faut en plus prendre un chausse-pied plus gros pour arriver à le faire rentrer sur des GPU plus petits, sur des cartes graphiques plus petites et sur des processeurs plus petits. Donc c'est encore plus de travail, donc c'est encore plus cher. Donc pour avoir la même qualité, ça coûte non seulement aussi cher, mais probablement encore plus cher. Pour un business model dont personne ne sait aujourd'hui s'il va marcher ou pas, puisque c'est dans les mains des joueurs, et aujourd'hui tout le monde se demande. Donc je pense qu'Apple a très probablement aidé à amorcer la pompe en aidant
on va en parler.
en aidant les gens et en finançant probablement partiellement en tous les cas les productions pour convaincre les gens de venir, parce qu'il y a eu tellement de titres originaux qui sont sortis que je doute très fortement que tous ces indépendants qui sont plutôt comme nous des gens qui ont faim aient pris la décision de mettre toutes leurs billes dans un panier dont ils ne savaient pas du tout ce qu'il allait rapporter en bout de chaîne. Donc nous, Apple a pu sans doute mettre la main à la poche pour accélérer le processus. Ils ont certainement pu pas faire d'échec pour payer un Red Dead Redemption 2. Ça, je pense que même pour eux, qui ne manquent pas d'argent, payer un Red Dead Redemption 2, c'est complètement en dehors du scope.
Ouais. Il y a une chose qui m'avait marqué lorsqu'on a préparé l'émission ensemble, Fred. Tu me disais peut-être que... Bon, tu étais vraiment surpris, mais tu trouvais de manière générale que les jeux étaient peut-être un peu trop... facile, qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Oui, je pense que la volonté, bah on n'est pas dans le côté e-sport où il va falloir être extrêmement précis, où ça fait appel à une connexion également rapide. Oui, voilà, même si on peut connecter une manette, hein, c'est de manière assez simple, on va en parler après. Non, je trouve qu'on est dans du jeu vraiment divertissant avec. Voilà, effectivement, bah jouer, c'est se divertir. Et c'est ça, dans la sélection, effectivement, bon, il y a des jeux pour les plus jeunes, mais on a aussi des jeux qui sont peut-être très faciles, mais qui jouent leur rôle de divertir et de passer un bon moment. Et aussi, je dirais, qui sont adaptés à la durée de jeu qu'on a sur ce genre de device. Quand on joue sur son iPhone, c'est durant un trajet, etc. Et donc, on ne peut pas complètement rentrer, même si dans la proposition, il y a quelques jeux qui sont où on peut passer des heures dessus. Mais globalement, c'est des jeux qui peuvent se consommer comme ça, 4-5 minutes.
Et on verra qu'on peut passer d'une plateforme à l'autre, hein, parce que ce n'est pas que l'iPhone. Il y a l'iPad devant toi, il y a l'Apple TV, qui n'a pas eu un succès énorme. Et également le Mac était toujours le parent pauvre du jeu, on en parlera tout à l'heure avec Laurent. Tu me disais également qu'il y avait quand même de grands noms qui avaient signé avec Apple, des personnes vraiment iconiques.
Des effets d'annonce notamment, enfin, qui servent un petit peu à dire on a quand même du beau monde avec nous. Je pense à Charles Tessier par exemple, qui est un créateur des Chevaliers de Baphomet, pour ceux que ça rappelle quelque chose, qui a accepté de concevoir un nouveau jeu. Et puis,
là, on voit Mario Kart, mais en fait, Mario Kart, il n'est pas sorti sur arcade. Hein. Il est sorti sur iPhone. Ça montre que Nintendo attend Wait and See pour
Arcade. Oui, alors avant d'avoir un produit Nintendo sur l'Apple Arcade, bon, je ne sais pas, peut-être ça arrivera. Ouais. Et puis, ils ont surtout signé, voilà, ils ont claqué fort avec Hironobu Sakaguchi, qui est un des pères fondateurs de la licence Final Fantasy, qui est extrêmement connu du monde du jeu vidéo, qui lui aussi donc, développe un jeu, alors qui, je pense qu'il y a un contrat qui fait qu'il ne peut pas utiliser ce nom-là, ça va nous donner... ça claque un petit peu et ça peut rassurer peut-être un petit peu les gens en disant...
Voilà, il va préparer un jeu qui s'appelait Fantasian, c'est
exactement.
Ça. Et il n'est pas encore disponible, donc ça laisse... on connaît le champ d'expression de ce monsieur, ça nous laisse un petit peu rêveur, on a hâte de voir le résultat.
Ouais, je dirais que c'est un petit peu similaire un peu ce qui a été fait pour l'annonce du service vidéo, où ils ont envoyé des noms de réalisateurs connus du lourd pour dire voilà, on ne fait pas les choses à moitié, donc à surveiller, est-ce qu'il y aura d'autres...
Alors Fred, tu nous as préparé une petite sélection de jeux tirés du catalogue d'Apple. Il y a 100 à peu près, un peu moins, ils ont promis 100 jeux, mais on n'y est pas encore, on n'est pas très loin. Quels sont les quelques titres que tu nous as sélectionnés pour nous aujourd'hui?
Je te disais dans les jeux un peu, qui m'ont marqué, la What the Golf par exemple, qui est un... je ne sais pas si Franquin faisait un jeu vidéo, peut-être que ça pourrait être What the Golf comme What the Fuck, puisque vous le voyez, ça, on commence au début à envoyer une balle de golf vers le trou, mais
c'est pas
finalement très rapidement, ça commence à se... C'est délirant et ça, c'est vraiment, c'est presque plus drôle que ludique. C'est ludique en fait, mais c'est assez surprenant. Fabien, t'as essayé?
Ah oui, bien sûr, ça a un vrai côté Nobinobi Boy, ça a un vrai côté jeu japonais complètement
farfelu,
barré,
dans
lequel à chaque niveau on s'attend à quelque chose et on a complètement autre chose.
Ah, voilà.
Et parfois c'est drôle, parfois ça l'est pas, mais tout est parfaitement assumé. Donc c'est un très chouette jeu et c'est vraiment typiquement le genre de jeu qui aurait un mal fou à se vendre à l'unité.
Ouais. Donc, autre jeu que tu as sélectionné pour nous cette semaine?
Alors, Assemble Whisker. Alors ça, c'est le mix entre un roman interactif. Ouais. C'est là que je disais, on n'a pas forcément des jeux qui sont parfois très difficiles. Quoi, en fait. Là, l'idée, c'est qu'on lit un roman et à chaque chapitre, à chaque fin de chapitre, on va réparer un objet vintage. Au niveau de la couleur, je trouve la direction artistique assez chouette. Et puis, y a ce côté, on va démonter un magnétophone, on va changer des piles, on va démonter une console portable. Et il y a un côté, c'est pas très compliqué. Bon, des fois, il faut savoir quelles pièces on va mettre dans le bon ordre, mais c'est divertissant.
Ça, typiquement, Fabien, c'est le prototype du jeu transgénérationnel, hein, par excellence.
Oui. Mais en fait, c'est les gens de Stu qui avaient fait Monument Valley avant, qui ont l'ambition et le budget pour faire des jeux extrêmement polish. dans lesquels ils vont au bout de chaque pixel, chaque mouvement est vraiment bien bien étudié, et qui se permettent aussi de faire des gameplays dont ils savent pas trop si ça va plaire ou pas. Je pense que Monument Valley, bien, bien malin celui qui aurait pu dire que ça aurait été un grand succès en le voyant le jour de sa sortie. Et oui, donc c'est des gens courageux et ils ont encore fait quelque chose qui est un ovni.
C'est ça, c'est ça. Et, qui fonctionne très bien.
Votre titre, c'est ton chouchou sans jeu de mots ?
Ouais, chouchou, bah, Chouchou Rocket, quoi, qui est un jeu culte de la feu Dreamcast, qui bah, finalement a été retravaillé et qui fonctionne très bien, pareil, en tactile sur l'iPhone ou sur l'iPad. Voilà, c'est, ça, bon, ça fait, forcément, ça fait plaisir, on va dire, aux gamers.
À notre génération, dirons-nous.
Voilà, et puis c'est un jeu qu'on peut justement en plus partager avec ses enfants, leur expliquer des mécaniques. C'est des casse-têtes, ça se... Voilà, ça se consomme, on peut faire comme ça deux petites parties sur un petit trajet en bus et puis reprendre voilà, le soir quand on a le temps, ça se
mange. Autre titre que tu as sélectionné pour nous
Alors celui-là, je ne suis pas d'accord, on en a parlé ensemble.
Ah oui, Shinsekai Into
the Dark. Voilà, mais j'ai pas finalement, alors je l'ai testé parce que tu m'as dit que c'était un jeu Capcom.
Moi j'avais trouvé l'environnement graphique très, très étonnant, hein, donc le fait de se plonger comme
un scaphandrier, voilà, au fond
c'est,
de
et puis Perron. C'est toujours des environnements très difficiles, je me tourne vers le développeur, assez compliqué généralement à recréer de manière dans des jeux vidéo.
Dans l'eau.
Mais là, tu n'as pas trop aimé le gameplay?
Bah, j'ai trouvé ça un peu surprenant vis-à-vis de Capcom, après pourquoi pas, on peut essayer aussi des nouvelles choses, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui
regarde, c'est plutôt réussi graphiquement, hein.
C'est pas mal, mais j'ai finalement assez vite décroché. Ouais, voilà, c'est ça. T'as bien essayé ça?
Il m'a pas intrigué du tout. En fait, je l'ai vu dans l'annonce, j'ai fait pas pour moi.
Voilà.
Mais pourquoi pas, hein,
je... C'est partie des titres affiches en tout cas d'Apple, mais oui. C'est vrai que j'ai eu du mal, rapidement assez du mal moi aussi, mais j'ai trouvé graphiquement très très joli. Autre titre qui est plus un titre de cœur. Fred. Sayonara, je crois.
Ah oui, Sayonara. Ouais. Là, on est dans ce qui fonctionne bien, qui est ce qu'on appelle le rétro-futuriste, un peu, c'est ça? C'est le mot tendance. Alors,
il est très beau, hein, celui-là aussi. Hein. Il, est,
il ne ressemble qu'à lui-même, ce jeu.
Ouais. Ouais. Ouais, il y a un peu de Tron, un peu de... Enfin, c'est, je parle, c'est bizarre. Hein,
c'est
chacun
part.
Trouve ses références.
Mm. Ouais. C'est le code couleur, en tout cas, voilà, de ce qu'on appelle voilà, cet état d'esprit un peu rétro-futuriste. Et donc, c'est qu'on appelle ça un runner.
On va dire que c'est un runner vu de face. Mais en fait, c'est surtout une espèce de clip interactif.
C'est
quoi.
Ça.
C'est
ça.
Beaucoup plus que. En fait, je trouve qu'en tant que jeu vidéo, il est pas extraordinaire. Et essayer de faire des bons scores à ce jeu, c'est une souffrance. moi qui suis quelqu'un qui aime faire les perfects dans les jeux, parce que je me dis que c'est là que je touche vraiment le goût du level design. C'est lorsque je fais le perfect, je sais ce que le level designer a voulu me dire. J'ai essayé de faire des perfects sur ce jeu. Ça me l'a rendu insupportable. Donc j'ai arrêté.
Donc celui-là est trop difficile en clair.
Non, il est
mal fichu. Le level design est mal fichu. Ah, mais tout le reste est tellement merveilleux. C'est une ode aux jeux vidéo comme j'en ai rarement vu. Il y a des moments où j'avais la larme à l'œil. Il a juste fallu que je m'enlève de la tête que c'était un jeu vidéo dans lequel je voulais faire un bon score.
C'est ça.
Ils auraient dû enlever complètement le score.
Mais c'est vrai que dans cette sélection-là, justement, les premiers jeux qu'on vient de voir, ça manque peut-être de niveau et de précision, mais encore une fois, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne sur le fait que c'est divertissant.
Tu nous as également sélectionné Cricket Fuck the Edges. Qu'est-ce que c'est celui-là?
Mais ça, c'est barré, ça. Ça encore m'a plu. C'est pareil. C'est techniquement, c'est pas le jeu qui va bluffer tout le
cricket,
monde.
Cricket, c'est le jeu du cricket. Hein,
voilà,
c'est ça.
C'est raconter comment est né le cricket.
Parce que déjà, pour comprendre les règles du cricket, mon épouse qui est australienne, qui a essayé de m'expliquer depuis maintenant presque 5 ans que nous sommes ensemble, 7 ans que nous sommes ensemble, j'ai toujours rien compris. Alors là, tu vas enfin comprendre grâce à toi?
Non.
Not a chance.
Non, mais c'est pareil. C'est un jeu qui fonctionne. Alors, on peut y jouer tout seul, mais c'est mieux d'y jouer avec un ami. Voilà.
Bah, c'est barré, en tout cas.
On se tape dessus, et puis ça, c'est une histoire complètement farfelue.
On s'en fout quand on tape dans tous les sens, quoi, en fait. C'est ça.
Ah, exactement. Oui.
Mais en fait, c'est vraiment, ça appartient à la famille des coops. C'est des jeux dans lesquels les contrôles sont tellement horribles que tout le monde fait n'importe quoi. Et c'est ça qui est drôle.
Mais d'accord. Voilà. On se lâche littéralement. Cricket Fuck the Edges. Titre suivant, Ocean Horn 2. On en a parlé en amont de cette émission. Celui-là,
c'est l'histoire de dire regardez, on peut aussi faire des jeux qui
des
ressemblent à vos jeux
console.
Oui, je pense que ça, il y a un peu de moyens.
Vous savez, il y a des moyens, il y a beaucoup de production value, il y a beaucoup de soins. Après, c'est un jeu qui va vous apprendre pourquoi Zelda c'est un chef-d'œuvre et pourquoi n'est pas Zelda qui veut.
Voilà. Exactement.
D'accord. Donc il y a un double sens.
Oui, en même temps, ils avaient sorti le Ocean Horn 1, donc 0 à 100 sur iOS, hein, pas dans Arcade. Et d'ailleurs, il y a les deux. Il y a les deux. Mmh. Tu peux acheter Ocean Horn dans l'App Store et tu as l'Ocean Horn 2 dans Arcade.
Mmh. Ouais, mais qui est visuellement très très différent de celui-ci. Hein.
Ouais, là, ils ont eu. Mmh. Je pense qu'Apple les a un peu aidés, mais on y reviendra. Autre titre plus minimaliste qu'Ocean Horn, c'est Mini Motorway.
Oui, bah ça c'est peut-être pour les anciens qui ont un peu de nostalgie, qui avaient envie de rejouer à SimCity. Je dirais que c'est un petit peu ça, puisqu'on trace des routes.
Ah oui,
c'est un SimCity-like.
En fait, c'est un SimCity dans lequel on s'occupe que des routes.
Voilà, d'accord. Avec ce côté aussi peut-être un peu à la Apple, je dirais un peu épuré, un peu design, un peu simplifié.
On approche des municipales, donc c'est le moment idéal de jouer à ça.
J'ai pas joué très longtemps, mais disons que c'est... Voilà,
c'est la suite du Mini Metro qui était sorti sur Steam et qui était sorti aussi en mobile il y a quelques années, peut-être l'année dernière. Et c'est encore une couche de soins au-dessus de Mini Metro qui était déjà très très soigné.
Et puis on arrive au titre de Fabien, on ne pouvait pas parler de Rayman Legends, bien sûr. Tu en as pensé que... On a pensé quoi à toi à titre personnel, Fred ? Tu n'es pas obligé d'être agréable avec Fabien.
Non, mais encore une fois,
qu'il termine l'émission avec nous. Quand
ayant joué aux épisodes précédents, bah j'avais prévu de le tester un peu plus tard, donc je n'ai pas testé cette version précisément.
Comment botter en touche ?
Non, mais je vous prie de m'excuser. Voilà.
Alors, est-ce que l'approche est différente des épisodes précédents, Fabien ?
Alors après, ça dépend de quel épisode on parle. Nous, on avait fait le Rayman Jungle Run il y a 7 ans sur iOS, et ensuite on l'avait porté sur toutes les autres plateformes, dont on avait pris la formule à l'époque de Rayman Origins, et on l'avait épurée pour la rendre compatible avec des contrôles extrêmement simples. Sont ceux qu'on peut avoir raisonnablement sur un écran tactile. Donc globalement, c'est à 80% c'est à one touch et à 20% on avait rajouté un deuxième. Donc avec deux doigts, on fait tout le jeu. Donc ce qui avait voulu dire qu'on avait pris le moteur d'Origins, on l'avait extrêmement simplifié, on l'avait rendu compatible avec le mobile, on avait refait tous les niveaux, on avait refait toute la durée des niveaux aussi pour que ce soit compatible avec des expériences très courtes. Puisque les niveaux, si on les fait en ligne droite sans se tromper, font entre 35 et 40 secondes. Et comme on va se louper, on va les faire et les faire et les refaire. Si on les refait 5 fois, on fait 5 minutes, ce qui est la durée moyenne d'une partie mobile, et on a eu notre ration. Donc ça, c'était la formule de Rayman Jungle Run, qui ensuite avait été reprise dans Rayman Fiesta Run, mais qui a été complètement abandonnée pour faire le Rayman Adventures, qui lui était un modèle freemium.
Vous suivez ?
Assez différent. Et enfin, Rayman Mini, qui est donc la quatrième version mobile de Rayman, reprend la formule du premier en rajoutant la crush attack.
Mais je vous rassure, on n'a pas besoin d'avoir joué au jeu précédent pour prendre du plaisir. C'est bien résumé ?
Ah, absolument.
Voilà. Alors, messieurs, on a eu la sélection de Fred. Est-ce que vous avez d'autres pépites que vous souhaiteriez mettre en avant ? Peut-être Fabien ou Laurent ?
Ouais, moi, j'ai adoré un jeu qui s'appelle Tint. Tint, c'est un jeu avec des couleurs. Donc en fait, c'est le mélange des couleurs. Et on mélange le bleu. Il faut arriver par exemple à faire du vert et tu as du bleu et du jaune. Alors au début, ça paraît facile. Sauf que le jeu avance et il y a, je crois, une cinquantaine de niveaux.
Pixar, c'est ça.
Et ça se complique. J'ai bien aimé Hexaflip. Je l'ai fini. Hein. C'est un jeu où on a des hexagones. Qu'on doit amener avec des masques écrasés.
On aime bien les hexagones dans cette émission.
Oui, pas moi, mais c'est un autre sujet. Et donc, je me suis amusé à un jeu qui s'appelait Pattern, que j'ai fini aussi, où c'est des images un peu sans fin et c'est des puzzles où on doit coller et trouver. Hyper facilement, dans un avion, dans un train. Et puis j'en ai quelques-uns qui sont sur lesquels je suis en train de jouer. Il y en a un qui s'appelle Bermuda, il y en a un autre qui s'appelle Pinball Wizard. J'ai Rayman Mini qui est en cours.
Dis-donc, pour un nom hardcore gamer, tu t'es lâché, hein, mon cher Laurent.
Ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais téléchargé déjà une vingtaine. Et puis après, il y a ceux que j'ai téléchargés auxquels j'ai pas eu le temps de jouer, Pac-Man ou Where Cards Fall. Donc, j'ai toute une série de jeux. Mais j'en ai fini quatre. J'ai fini Tint, Assemble with Care, Hexaflip et Pattern.
Alors, au-delà de la qualité des jeux, de l'originalité qu'on peut trouver, moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que le service est compatible avec tous les appareils d'Apple, on le disait tout à l'heure. On peut commencer une partie sur son iPhone, la continuer sur l'iPad, l'achever sur l'Apple TV et sur le Mac. Historiquement, Laurent, le Mac a toujours été le parent pauvre sur Mac. Est-ce que tu as... Et ça a inspiré d'ailleurs, regarde, une réaction de Hersh sur Twitter. La question est plutôt de savoir est-ce que Arcade va faire du bien à l'écosystème Apple. On ne peut clairement pas comparer un jeu triple A avec le catalogue d'arcade, mais l'intérêt n'est pas moindre pour autant, surtout pour le Mac qui pleure après des jeux depuis des années. Là, a priori, ça va amener plein de studios à développer sur Mac, Laurent, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Après, tu te rends compte, et on en revient à un débat des semaines précédentes, tu te rends compte que beaucoup de jeux, finalement, ils sont agréables parce que tu cliques à l'écran. Et le passage au Mac n'est pas forcément évident sans, alors on en parlera un peu après, mais sans manette, sans. Du coup, autant le passage du téléphone à un iPad peut avoir du sens, voir une télé avec une manette, autant sur le Mac, c'est la lignée, c'est pas direct, quoi.
Il y a moins de jeux hein, sur Mac, il n'y en a qu'une cinquantaine aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, on peut penser que le catalogue va s'étoffer, mais attention, il faut par défaut, pour avoir accès à Arcade, macOS Catalina, qui est indispensable. Est-ce que tu t'intéressais au Mac jusqu'à maintenant, Fabien? Est-ce que justement ça va t'inciter à développer?
Ah, est-ce que je m'intéressais au Mac en tant que plateforme de jeu?
Ouais.
En tant que plateforme de jeu, j'avoue que j'ai renoncé à faire des jeux sur Mac à l'époque, dans les années 90, je pense, où je me suis dit que non, vraiment, ça ne marcherait jamais. Et donc, je suis passé sur PC et je n'ai plus jamais essayé de faire des jeux sur un Mac.
Et là, aujourd'hui, est-ce que justement la donne va changer avec l'arrivée d'Arcade?
Alors, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais en tous les cas, on a fait un jeu qui s'appelle Pac-Man Party Royale aussi, qu'on a sorti sur Apple Arcade récemment et qui est un jeu multijoueur. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plein de gens qui peuvent jouer localement à un party game, chacun sur son écran, chacun avec ses contrôles. Et là, ce qui est agréable, c'est qu'il y a souvent un Mac à la maison, il y a souvent des iPhones à la maison. Et le fait de pouvoir jouer avec toutes ces machines, ça fait une machine de plus qui va pouvoir participer à la partie. Et ça, je trouve ça assez génial.
J'avais quand même... On parlait de Mac, mais on a abordé brièvement le thème de l'Apple TV, qui était... l'arme secrète d'Apple pendant un temps pour essayer de s'imposer dans le secteur des jeux vidéo, et on a vu que ça a fait long feu, hein. Ils ont abandonné l'idée d'en faire une console. Là, ça revient avec Apple Arcade. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'Apple TV à titre personnel, Fred?
Moi, je ne joue pas avec cette machine-là, donc je ne sais pas si je vais arriver. En fait,
il manque un peu de puissance quand même.
Oui, voilà. Et hein. C'est vrai que quand je suis à la maison, ça allume plutôt une vraie console pour jouer, ou alors je joue sur un coin de mon canapé, sur mon iPad ou sur ma tablette.
Fabien,
donc je ne sais pas si ça va permettre de développer le gaming.
En fait, c'est vraiment un problème de communication et de marketing, parce que ce qui est très étonnant, c'est que l'Apple TV, au moins la 4K, est une machine extrêmement puissante.
Oui, la 4K,
étonnamment puissante.
La 1080p, on est un peu plus...
Qui coûte 200 euros,
ouais.
Sur laquelle on peut brancher n'importe quelle manette, et qui fait tourner 70 jeux pour 5 euros par mois.
Ouais.
Moi, quand j'ai appris qu'Apple Arcade existait et que ça allait être lancé, et j'ai développé donc notre jeu dessus qui tourne quand même, que ce soit Rayman Mini ou Pac-Man, il tourne sur l'Apple TV 4K en 60 Hz, donc 60 images par seconde, en 4K HDR, je veux dire, je fais... Ok, donc là, ils ont vraiment une carte à jouer. Donc, il faut qu'ils fassent un bundle. Ils baissent leur Apple TV 4K de, je sais pas, 30 euros. Ils font un bundle à 200 euros avec manette, avec... 3 mois d'abonnement inclus, ils font un carton.
Ouais, et tu l'as dit, le mot magique, hein, c'est la manette. Hein, le progrès, moi, je te trouve le plus marquant au registre des jeux vidéo et les plateformes Apple en général, c'est en marge de la sortie d'Apple, hein, d'Arcade, parce que ce n'est pas lié à Arcade, c'est qu'Apple a ouvert enfin la compatibilité aux manettes des consoles PlayStation et Xbox, et ça change vraiment tout. Et regardez, on trouve même la Xbox sur le site d'Apple, sur l'Apple Store, on peut l'acheter directement. Comme quoi, là, on a bien changé les esprits. Alors, il faut penser à la mettre à jour, ce qui n'est pas mon cas, mais elle se connecte directement en Bluetooth, et elle est reconnue aussi bien par votre iPhone, bon, ce qui n'est pas forcément évident, votre iPad, ou surtout votre Apple TV, là, et même le Mac, là, tu as raison, Laurent, sur Mac, ça change tout, et pour ceux qui n'aiment pas trop l'écran tactile, certainement une solution. Il y a certains jeux qui ne fonctionnent sur Apple TV qu'avec une manette. Il y a quand même un point autour de moi qu'on m'a pointé du doigt autour d'Arcade, Fred, des côtés négatifs autour d'Arcade, c'est que les développeurs n'auraient pas cherché manifestement à trop optimiser le poids des jeux, et on sait que dans l'environnement Apple, notamment sur iPhone, qu'on a des modèles assez anciens d'iPhone, on n'a pas beaucoup de mémoire. Ça c'est un vrai problème, non?
Ouais, chez une Horn, il fait 2 Go,
2 Go 3,
ouais, voilà. Donc effectivement
4,4 Go sur macOS. Si vous avez un MacBook Air 128 Go, bon courage.
Non, effectivement, ça va. Bah, ça, peut-être permettre de faire un choix. Voilà, on va choisir les jeux auxquels on va jouer pendant un moment. De toute façon, voilà, après, quand on a son jeu, bah, son jeu, c'est
Il ne faudra pas tous les installer sur des petites configurations, parce qu'on va être vite plein, y compris sur l'Apple TV, si vous avez une petite version d'Apple TV.
Après, c'est quand même pour la plupart des jeux qui doivent fonctionner en 4K, parce que quelqu'un va un jour les balancer sur un écran 4K, donc il faut qu'on mette tous les assets en ligne pour qu'ils marchent en 4K, et des textures 4K, vous savez quoi, c'est lourd.
Je sais bien, mais bon, un iPhone 16 gigas, un iPhone 6, pas besoin d'un 4K. Allez, voilà pour le tour d'horizon de l'offre d'Apple Arcade.
Olivier, oui. et en plus au téléchargement, donc tu te dis, tu vois par exemple, tu dis, ah super, quelqu'un te parle d'un jeu en disant, ouais regarde, Ocean Horn, il est terrible, et tu télécharges, quand tu vas sur ton téléphone, au moment où tu fais pour le télécharger, il te dit, attention, ça pèse 2,2 Go, hein, ou 2,3 Go, j'avais 2,2 en mémoire, et est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas attendre d'être en Wi-Fi pour le télécharger, quoi? Ça veut dire qu'il ne joue pas tout de suite en plus.
Ouais, ça met du temps, surtout si vous êtes chez Free, qui est un peu fâché avec l'App Store en ce moment, mais c'est une autre histoire. Voilà pour le tour d'horizon de l'offre d'Apple Arcade, qui devrait encore aller s'enrichir dans les semaines qui viennent, surtout si Apple parvient à convaincre les développeurs. Alors comment ça se passait comment ça se passe avec les développeurs? On va essayer d'en parler avec Fabien de Pastagame. Mais d'abord, on va parler du busomètre. Le busomètre, les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple du côté du site Mac Forever. Et comme Didier est en train de filmer, regardez ceci, à savoir les AirPods Pro. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Justement, les AirPods Pro sont là. C'est évidemment l'information qui a le plus buzzé cette semaine. La légende, la rumeur avait raison. Le casque Bluetooth intra-auriculaire à réduction de bruit n'était pas une rumeur. Elles sont bien arrivées cette semaine. Pas de keynote en revanche. On est un peu déçus en Refait le Mac parce qu'on voulait vous faire un beau direct. Mais ce sera pour une autre fois. Voilà, les AirPods Pro, on vous en parlera en fin d'émission. Deuxième rumeur, plus 15% pour la production d'iPhone 11. Il semble que le modèle, entre guillemets, moyen haut de gamme d'Apple ait plus de succès que l'iPhone 11 Pro. Alors que les ventes de l'iPhone 11 Pro ont commencé très fort, l'iPhone 11 rattrape son chemin et Apple est contraint d'augmenter sa production. C'est des problèmes de riches. Troisième rumeur, le tag d'Apple, le fameux Apple Tag, s'appellerait AirTag. On l'attend peut-être cette semaine, peut-être au moment où vous verrez cette émission, il sera sorti. On s'attend à ce qu'Apple multiplie les annonces cette semaine. Nous enregistrons le mercredi et l'émission est diffusée le vendredi, on verra. Donc rappelons, hein, c'est le même principe que Tile, et ça vous permet de localiser des objets et aussi localiser vos iPhones, vos Mac et compagnie, si on vous les a volés ou si vous les avez perdus. Quatrième rumeur, Google voudrait...
Olivier ?
Oui.
J'ajoute un commentaire. Oui. Cette semaine, c'est très marrant, hein, cette semaine, Google a annoncé un partenariat plus poussé avec Tile,
ouais,
pour dire qu'aujourd'hui, on pouvait traquer sur Google Assistant, c'est Tile.
Il n'y a pas de fumée sans feu, Laurent, c'est ça?
Oui, c'est bizarre.
Ouais, tu parlais de Google justement, regarde, Google voudrait se payer cette fois Fitbit pour contrer l'Apple Watch. Donc ça montre que Apple a plutôt eu raison de s'acharner à imposer son modèle de montre. Et c'est vrai que beaucoup de constructeurs ont lâché l'affaire et Fitbit s'accroche. On pense aussi à WeThings. On va voir si Google va faire un gros chèque. Et enfin, dernière rumeur, Apple investirait, ce n'est pas une blague, massivement dans sa division HomeKit. Moi, j'en désespère. On a des belles lumières HomeKit et s'allument une fois sur deux quand on dit... Je ne dis pas le mot, sinon ça va tout éteindre, dans ce studio. Voilà, c'était donc le busomètre de cette semaine. Retour à Apple Arcade. Comment s'est passé le portage de Rayman sur Arcade? Explication avec Fabien en plateau. Les coulisses de Rayman. Fabien, comment s'est décidé le portage tout simplement de ce jeu sur Apple Arcade? C'est la pomme qui vous a contacté, qui t'a contacté, ou c'est un mouvement spontané?
Si j'avais eu la licence Rayman dans ma poche, il m'aurait sans doute contacté moi, mais il se trouve que c'est une petite société montpelliéraine qui s'appelle, ouais, Ubisoft.
Un voisin.
C'est ça, un voisin. Et donc ils ont contacté le voisin directement, et le voisin est venu nous voir gentiment en nous disant, écoute, vous aviez fait Rayman Jungle Run, ça s'était bien passé, on s'aime bien, continuons à travailler ensemble.
D'accord. Et tu sais comment c'est parti d'où, c'est qui a allumé, qui a séduit l'autre en premier? C'est l'éditeur ou c'est le distributeur?
Alors, je ne sais pas. Ce sont des secrets d'alcôve. Je n'étais pas là au moment où ils se sont rencontrés, où ils se sont embrassés. Mais j'ai cru comprendre que c'était Apple qui avait contacté Ubisoft en leur disant, voilà. Je pense que dans cette première fournée d'Apple Arcade, c'est beaucoup Apple qui a été l'initiative, ne serait-ce que parce que personne ne savait qu'Apple Arcade avait existé. Donc, ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que les gens applient pour proposer un jeu. Donc c'est eux qui ont fait des coups de fil entrant auprès d'une sélection de gens dont ils qui avaient déjà fait des jeux dont ils estimaient qu'ils étaient compatibles avec la vision qu'ils se faisaient d'Apple Arcade. Et donc, il y a eu un certain nombre d'appels entrants, dont un est arrivé chez Ubisoft.
Ils ont un bon carnet d'adresses, en tout cas, ils ont bien choisi. Est-ce que concrètement, Apple vous a aidé pour le développement de ces jeux ?
Alors, Apple a été en soutien sur les points techniques. Donc, il y avait une espèce de hotline Apple Arcade Help qu'on pouvait contacter si jamais on galérait avec des problèmes techniques, des problèmes de SDK, d'installation, de ça ne marche pas. Lorsque je prends le certificat de machin bidule, je rajoute la librairie chose, ça ne se connecte pas. Donc, ils ont été très présents techniquement. Par contre, ils ont été extrêmement absent pour nous donner des guidelines sur des recommandations, des requirements. ils ont quand même monté l'équivalent des TRC qu'ont tous les autres constructeurs, c'est-à-dire la liste des points de vérification technique qui doivent être les checklists avant que le jeu sorte, ce qui n'existait pas vraiment sur iOS avant. Donc là, ils en ont fait une parce qu'en tant que nouveau consolier, ils se doivent d'être regardants sur la qualité des titres. Mais d'un point de vue éditorial, en tous les cas, ils nous ont laissé une liberté absolue.
Ça veut dire que demain, si moi je décide de développer des jeux et que je veux le proposer à Apple Arcade, il faudra quand même atteindre un certain niveau de qualité qui satisfasse Apple.
Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'ils acceptent des projets qu'ils n'ont pas eux-mêmes sollicités. Donc en tant que Pasta Games, d'ailleurs, j'adorerais travailler pour Apple Arcade en nom propre. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la hotline à appeler pour dire oui, bonjour, je voudrais proposer un jeu vidéo.
Tu as rencontré Tim Cook, il fallait poser la question, il était à Montpellier il y a quelques semaines.
C'est ça, j'ai eu cette naïveté de ne pas essayer de lui glisser un petit mot à la sortie de l'entretien.
Un billet, ça ne sert à rien. Un billet, ça ne sert vraiment à rien avec Tim Cook, crois-moi. À propos de billets, est-ce que tu sais si Apple a mis la oui ou non la main à la poche, parce qu'on a lu tout et n'importe quoi, on a même parlé d'une enveloppe de 500 millions de dollars qui auraient été provisionnés par Apple pour pousser, pour aider les développeurs et attirer des studios.
Alors, je n'ai absolument aucune information sur le sujet. En revanche, comme je disais tout à l'heure, vu les petits studios qui se sont lancés...
Est-ce que tu as une Apple Watch céramique ? Si tu as une Apple Watch céramique... Non, elle n'est pas céramique.
J'ai l'entrée de gamme. Ouais. Non, je n'ai pas d'informations plus fiables que n'importe qui d'autre.
Bon, on parle souvent de portage exclusif. Est-ce que c'est vraiment exclusif ? C'est-à-dire que les jeux que tu as fait aujourd'hui pour l'Apple Arcade, tu ne peux pas le proposer sur d'autres plateformes ?
Alors là encore, c'est une information qui ne m'appartient pas, puisque moi, on m'a demandé de développer un jeu sur iOS... tvOS et macOS exclusivement dans un premier temps. Mais notez bien que sur Rayman Jungle Run aussi, on l'avait fait exclusivement pour iOS dans un premier temps, juste parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc la plateforme qu'on avait pris comme lead, c'était celle-là. Et ensuite, les autres étaient venus par la suite et on était venu nous dire, Ubisoft était venu nous dire, maintenant on voudrait avoir la version Android, on voudrait avoir la version Windows, etc., etc.
Fred, on a vu que des jeux existaient sur d'autres plateformes, de manière générale.
Oui, bien sûr. Bah justement, il y a une sélection des jeux de l'Apple Arcade qui sont exclusifs et puis il y en a d'autres qu'on peut retrouver ailleurs.
Et puis j'imagine qu'à un moment donné, l'exclusivité va peut-être s'ouvrir. On verra si les jeux, va échouer un jour ou l'autre. Et au-delà, quel est le modèle économique ? C'est la première question qu'on se pose, Fred. On sait qu'aujourd'hui, l'App Store, il y a un modèle tout simple. Apple prend une partie. En général, c'est autour des 30%. Et si on est un gros vendeur, ça peut aller jusqu'à 15, voire 10. Est-ce que tu as une idée du modèle de la rémunération ? Est-ce que c'est en fonction du temps passé par le joueur sur le jeu ? On pourrait imaginer ça. Un modèle un peu proche de Netflix, où on paye un certain montant pour le contenu. Est-ce que tu as des infos par rapport à ça ?
Je peux vous donner un secret qui m'appartient, celui-là, c'est que je ne touche aucun royalty, ni personnellement, ni au travers de la société Pasta Games. Ouais. Donc savoir si en amont des royautés tombent qui ne me sont pas redistribuées, je n'en sais fiche trop rien.
Bon, et au-delà, c'est un bon deal ?
Pour nous, c'était un deal merveilleux, puisque ça nous a permis, un, de retravailler sur une plateforme qu'on adore, avec des gens qu'on adore, sur une licence qu'on adore. Donc déjà, rien que ça constitue un bon deal. Économiquement, ça nous a permis de faire notre marge habituelle, ni plus ni moins, qui nous permet de faire nos autres jeux à côté. En fait, on nous demande un prix, on nous demande un chiffrage de combien ça coûte de faire ce jeu-là. Nous, on regarde le nombre de personnes dont on a besoin, on applique notre taux de marge habituel, et c'est ça qu'on dit. On ne dit pas « Ah, c'est pour Apple Arcade !» Plus 53%.
Ouais, tu sais que ça existe, ça aussi, quand on parle d'Apple. C'est un réflexe un peu conditionné quand on connaît les finances d'Apple.
On note bien que c'est peut-être pour ça qu'on ne nous avait pas dit que c'était pour Apple Arcade. On nous a dit combien ça coûterait. C'est ça.
Alors justement, est-ce que tu travailles sur des projets futurs, des choses dont on peut parler ? parler ou pas?
Oui, oui. Alors, en tant que... Donc là, on vient de finir Rayman Mini et Pac-Man Partie Royale pour Bandai Namco. Ces jeux-là vont avoir des live-ups, ce qu'on appelle des live-ups, c'est-à-dire des mises à jour régulières avec des nouveaux contenus qui vont continuer pendant plusieurs mois. Donc ça, ça va déjà nous tenir occupés pendant un certain temps. Et puis Pasta, on fait deux tiers de notre temps, on fait des jeux pour des grands studios, pour des marques. Et avec la marge qu'on arrive à dégager sur cette activité-là, on réinvestit dans des jeux à nous qui sont généralement plus confidentiels, plus bizarres, dans lesquels on s'autorise tout ce qu'on ne s'autorise absolument pas lorsqu'on est au service d'une marque. Ouais. C'est-à-dire à faire des choses dont on ne sait pas si ça va se vendre ou pas et dont on ne sait pas si ça va plaire aux gens ou pas. Alors, on se fait plaisir à nous.
C'est bien déjà.
Pour nous, c'est essentiel, parce que c'est la raison pour laquelle on a créé le studio, c'est de pouvoir avoir cette liberté de création-là. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille sur un projet qu'on appelle en ce moment Projet Karma, qui est un nom de travail, dans lequel qui est un jeu de plateforme multijoueur avec des éléments de Lost Vikings, c'est-à-dire que chaque personnage a des capacités uniques qui lui permettent de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et donc on va se retrouver mis dans une partie avec entre 5, 10, 15, 20 personnes qu'on ne connaît pas, qui jouent au travers de l'internet, on ne sait pas du tout où ils sont, on n'est pas en TeamSpeak avec eux, et on va devoir vivre une aventure dans laquelle on réussit tous ou on loupe tous, le score est commun et tout est en commun dans le groupe. Donc on va devoir collaborer avec ces gens qu'on ne connaît pas pour arriver à faire le meilleur score possible. Chacun va à la fin récupérer le score pour lui en propre. Tous les membres de l'équipe qui sont restés jusqu'au bout auront les points récoltés par l'équipe.
On a hâte de voir ça, sera dispo quand ?
2020, on s'est remis à travailler dessus parce que les 8 derniers mois ont été un petit peu agités avec Apple Arcade, mais là sur 2020...
Donc c'est 8 mois de travail, hein, en gros, c'est allez, 6 mois de travail les portages que tu as...
C'est 8 mois de travail. 8
mois de travail. Et ça a été justement question plus pour les développeurs qui seraient intéressés de se mettre à Arcade. Ça a été vraiment compliqué de développer pour différentes plateformes, de passer à iOS, à tvOS, à iPadOS, à macOS aussi.
Oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'on doit, on parlait tout à l'heure du poids des applications, on doit gérer des tailles d'écran qui vont de vieux téléphones iPhone 6S jusqu'à des téléphones à des écrans 4K de télé gérés par l'Apple 4K, en passant par tout un tas de formats. Le problème, c'est les ratios d'écran qui ne sont pas du tout proportionnels. On a du 16/9, on a du 4 tiers, on a de l'iPad, on a des trucs qui sont au milieu, des trucs avec des notches, et on doit faire en sorte que le jeu soit plein écran et jouable et pixel perfect sur tous ces devices-là.
Avec les mêmes réflexes d'une plateforme à l'autre, ça doit être
assez compliqué. Et faire en sorte que ça ne pèse pas 12 gigas, parce que si on met les assets
pour
chaque... Ils nous
plein pour 2 gigas,
c'est ça. Parce que si on, si on double les assets, ou on les triple, on les quadruple pour chaque plateforme, pour mettre les assets qui vont bien pour la plateforme, à la fin, la plateforme pèse... Des gigas.
Allez messieurs, à moins qu'il y avait peut-être une question à poser à Fabien.
Non, justement, effectivement, c'est vrai que l'écran de l'iPad, il est 4 tiers, quoi. Mmh. Et nos iPhones, c'est pas du tout.
16, 9e. Ouais. L'iPhone, c'est un peu bizarre, c'est quoi? C'est une sorte de 21, 9e.
C'est un truc qui rime à rien, c'est encore
c'est une
chose. Surtout l'iPhone X, qui a encore un format...
Sans oublier l'encoche sur la noche, comme tu disais. Ah, oui. Ouais. Allez, assez parlé d'Apple Arcade, messieurs, ou plutôt du présent. On va parler un petit peu du futur. Le futur des jeux vidéo est-il dans les plateformes de streaming? C'est ce que propose pas encore Apple Arcade. C'est le chapitre final de cette émission. Le streaming est-il le futur des jeux vidéo? Alors, les initiatives se multiplient, Fred, autour du streaming. On pense en France notamment à
Shadow.
À Shadow, hein, Cocorico. Elle vient de lever 30 millions d'euros. Tu peux nous présenter un peu le concept de Shadow en quelques mots?
Bien, l'idée, c'est de pas la peine d'acheter un PC avec une carte graphique ultra puissante, avec du stockage. On se connecte avec Netflix, on se connecte à une plateforme qui va nous renvoyer l'image du jeu auquel on est en train de jouer.
En fait, le gros PC ultra puissant, il est dans une ferme de stockage quelque part.
Absolument.
Dans un centre de données.
Absolument.
Il est toujours mis à jour en permanence, donc on a toujours le jeu tip-top avec la carte graphique.
Exactement, pas besoin de faire de mise à jour, ça c'est oublié. Et il y a un seul souci, c'est qu'il faut une connexion, de préférence fibre.
Ah oui, évidemment.
Même si, bon, il y a des tests sur la DSL, mais donc, après, sinon on joue dans une résolution qui est de moins bonne qualité.
Alors ça coûte plus cher qu'Apple Arcade, il faut compter autour des 12-13 euros, c'est ça, de mémoire, par mois. Par contre, on peut jouer sur n'importe quel appareil, du coup, derrière.
Voilà, c'est l'idée. À partir du moment où on peut se connecter, on peut
Tu peux jouer sur Mac à Gran Turismo, par exemple.
Je n'ai pas testé, mais non, Gran Turismo, ça va être compliqué parce que c'est une propriété de PlayStation.
Mais un jeu PC à Formula One, par exemple.
Voilà, ouais. Absolument.
Moi qui suis un fan des jeux de voitures et de simulation automobile. Mais bon, passons. On a vu que d'autres plateformes s'intéressaient également, de grands éditeurs s'intéressaient également aux jeux de streaming. On pense à Google qui a présenté également au printemps dernier sa plateforme baptisée Stadia. C'est le même concept que Shadow ?
Oui, on peut. Non, pas tout à fait.
Pas vraiment. Shadow, on a le grand plaisir de posséder un PC quelque part dans le nuage. Donc, il faut quand même changer les couches. Il faut installer, il faut défragmenter. C'est un PC, quoi.
D'accord.
C'est un PC qui est ailleurs, mais c'est un PC. Alors que Stadia, c'est un service.
D'accord.
Et je pense que la grande différence, c'est que les utilisateurs de Shadow voulaient acheter un PC et ils achètent un PC dématérialisé. Alors que je pense que les gens qui vont s'abonner à Stadia ont envie d'avoir une plateforme de jeux vidéo dans le cloud et ne gérer rien de toutes ces choses.
Ouais. Alors une réaction de Dark Linux sur Twitter qui est toujours très critique envers Apple et notamment notre question du départ, est-ce qu'Apple va faire de l'ombre aux géants du secteur ? Il répond non, ce n'est pas leur image, en tout cas le jeu vidéo. Désormais, leur image, c'est celui de vendeur de smartphones premium, donc c'est sévère. Mais ils sont ridicules par rapport à Steam, Epic, voire Google Stadia. C'est deux univers différents qu'Apple Arcade, Fabien.
Ah, je pense que ce n'est pas du tout le même public, oui. Je pense que... Après, maintenant, je serais bien en peine de savoir quel est le public de Stadia, parce que je ne connais personne autour de moi, de la grand-mère jusqu'au hardcore gamer, qui est fasciné par Stadia et qui l'attend comme le sauveur.
Ouais.
Donc, je ne sais pas qui va prendre cette chose.
C'est
pour
plus
en faire
un hardcore gamer, déjà, d'emblée. Donc, ce n'est pas la même frange de population. On ne va pas s'abonner à Stadia ou à Shadow pour jouer à Rain Man Legends. On est bien d'accord.
Je doute qu'un hardcore gamer qui tient à avoir une expérience à 60 FPS sur sa machine, avec des contrôles, avec un input lag à 15 millis, va jouer à Stadia.
En revanche, on peut penser que c'est un secteur qui a de l'avenir, qu'ils évangélisent le marché, qu'à terme, peut-être qu'un Apple pourrait se laisser tenter au streaming.
Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes de streaming qui vont être difficiles à corriger, entre autres l'input lag par exemple. Il nous annonce un input lag négatif, ça fait rire.
Et précise ce que c'est que l'input lag pour ceux
c'est
qui
sont. C'est le temps qu'il y a entre le moment où tu appuies sur la touche et où l'action se fait.
La latence en fait, en quelque sorte.
Oui, c'est la latence des contrôles.
Ouais.
C'est vraiment entre le moment où je décide de faire un truc et le moment où ça se passe, quel délai je vois. Et là, forcément, lorsque j'appuie sur la touche, il faut que ça parte, que ça traverse le réseau, que ça revienne, que l'image soit construite et qu'elle reparte. Ça, il y a une durée incompressible qui est celle de la traversée du réseau aller et retour.
Et donc, explique-moi l'input lag négatif, c'est-à-dire que ça clique avant que j'appuie, en fait.
Voilà, c'est l'annonce de Stadia de la semaine dernière. C'est pas moi qui ai inventé ce mot. Donc, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, j'ai ri. Et après, j'ai lu des justifications des gens de Google qui font si, vous allez voir, c'est l'IA.
D'accord.
L'un qui joue à ta place,
va
en
deviner.
Fait.
Non, mais attends.
C'est ça qu'il raconte.
Tu sais quoi ? On a un spécialiste de l'IA, pas en plateau, mais en duplex, avec Laurent Dixbrain. Quel regard tu portes à titre personnel sur le streaming, hein ? On sent qu'il y a quand même un engouement fort et ça fait rêver. Hein, donc, ça a certainement un avenir. Rien ne dit qu'Apple n'y aille pas. Et au-delà, ces histoires d'intelligence artificielle, Laurent ?
Alors, je pense que, comme ça l'a été évoqué, sur la dimension streaming, il faut répondre à des problèmes techniques. Ça veut dire que oui, quand on aura la 5G avec des latences très très courtes, mais aujourd'hui, quand il y a un gamer, quand tu fais tout simplement un ping, un test de ta bande passante et que tu as, je sais pas, 45 millisecondes, bon, ben pour un gamer qui veut, encore une fois, on parle pas du casual game dont on a parlé jusque-là, c'est fini, quoi, tu joues plus, hein, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu t'es fait tuer avant même de pouvoir avoir appuyé sur la détente, quoi. Donc il faut résoudre ces problèmes techniques. Alors attention, hein, le temps joue pour nous tous, hein, les bandes passantes, la fibre optique, la 5G, donc tout ça sont des technos qui sont en train d'arriver, qui vont répondre en partie à ça. Pour preuve, les opérations à distance avec un chirurgien qui tient une manette de jeu à la main et qui opère un intestin à l'autre bout de la planète. Donc on sait qu'on y va. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose sur l'IA, oui, effectivement, ce que tu pourrais faire en IA, c'est commencer à anticiper toute une série d'actions qui peuvent être prises et réduire le temps. Maintenant, d'aller à du négatif, le négatif voudrait dire que l'IA joue à ta place. Donc du coup, ça devient plus compliqué.
Ils sont quand même forts en marketing chez Google. Hein,
ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est comme si tu disais, tu vois, je vais dire, avant que je parle, ben, finalement, ça va parler à ma place avant que je parle. Il y a, bon. Y a un petit souci.
Voilà, on arrive doucement au terme de cette émission. On espère qu'on vous a convaincu. D'au moins essayer, hein, d'Apple Arcade. On n'a pas des actions chez Apple, donc c'est pas obligé. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant et c'est assez plaisant de découvrir cet univers, d'autant plus que le premier mois est gratuit. Donc essayez-le. Il suffit juste de se désabonner. Fabien, n'écoute pas ce que je dis. Si vous n'êtes pas convaincu, après le mois, c'est assez facile via votre compte iCloud. On arrive donc au terme de cette émission. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence juste avec Laurent, puisqu'il est à l'image.
Ah super, alors moi j'ai c'est un produit que ça fait longtemps qui me titillait, c'est une marque qui s'appelle Fibaro fait énormément de produits de domotique et une grosse partie de leurs produits sont HomeKit compliant. Et ils ont un bouton qui est assez sympa parce que ça ressemble un peu à un bouton d'alarme, c'est une espèce de
push button.
Ouais, de buzzer, donc ils l'ont en rouge, en blanc, en multicolore, et il est compatible HomeKit. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant le bouton en soi, et ils ont d'autres produits techniques, on reparlera sur une émission HomeKit, hein, tu sais que je suis passionné d'HomeKit, donc on reparlera de ça. Mais ce bouton, ce qui est intéressant, c'est de le mélanger à Shortcut. Donc je me suis amusé depuis une dizaine de jours avec l'application Shortcuts d'Apple et les interactions, et tu arrives à faire des choses que par
raccourci,
exemple sont...
Okay.
Application oui, ah oui, ça s'appelle peut-être raccourci en français, effectivement. Moi, je l'ai en anglais. Et du coup, tu arrives à faire des choses assez marrantes en appuyant sur le buzzer et en faisant des choses. Par exemple, dans les choses qu'on peut faire avec raccourci, tu peux utiliser la détection NFC qu'Apple n'autorise pas par ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que tu peux dire, je mets un sticker NFC à la maison chez moi, et quand je pose mon téléphone, ça fait une série d'actions, alors que le NFC n'est pas accessible pour des applications dans Apple. Et donc là, pareil, avec le bouton, tu peux déclencher un certain nombre de... Ouais, tu vas beaucoup plus loin. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant.
Il faut vraiment que tu viennes au studio pour nous régler notre installation.
Je te signale que quand on a fait le test ensemble la semaine dernière, ça marchait pas.
Oui, mais toi, parce que tu envoies des ondes positives, mais quand tu n'es pas là, ça ne marche pas. Je dis le mot magique et ça ne marche pas. Mais bon, passons. Je ne le dis pas, sinon ça va éteindre toutes les lumières. Fabien, est-ce que tu as en ce moment, ce n'est pas une obligation, un coup de cœur ou un coup de gueule dont tu voudrais parler dans cette émission?
Oh, restons sur Apple Arcade. Vu que tout à l'heure, j'ai passé mon tour, parce que ça ne me venait pas à quel
ça
était le
revenu.
Jeu. Ça m'est revenu. Il y a un jeu que j'ai adoré qui s'appelle Grindstone, qui est un jeu de Capi, donc Capybara, qui reprend tous les codes des Candy Crush-like, dans lesquels on doit aligner des machins d'une certaine couleur. Sauf qu'ils le mettent, je crois qu'ils se fichent assez ouvertement des jeux freemium et des jeux free-to-play. Et donc ils reprennent au moins la mise en page de ces choses-là et tous les tropismes de ce jeu-là, en le remettant dans un jeu dans lequel on a une espèce d'énorme guerrier qui doit aller faire des missions dans des caves, et il doit exploser le plus de monstres d'affilée en faisant des combos par couleur et avec des possibilités de changer de couleur. Donc on fait ce qu'on fait d'habitude, hein, on relie des petits machins de couleur, sauf que c'est des monstres, et c'est à mourir de rire.
Bon, on va essayer tout de suite dès la fin de cette émission. De ton côté, Fred, quel est ton coup de cœur
cette
semaine?
C'est ce qu'on a dit, on a parlé d'Apple Arcade. Moi, je vous invite vraiment à tester What the Golf. J'ai pensé à Franck, hein. Avec ce côté, voilà, on va monter d'un degré chaque fois dans l'absurde. Et vraiment, j'ai passé un bon moment. Et pour éventuellement un deuxième petit coup de cœur, on n'a pas parlé, c'est Inmost,
ouais,
qui est un jeu en pixel art, en fait, et qui est avec des... Jouez-y au casque, qui conseille de jouer au casque, mais il y a des petits sons, un petit chat qui miaule à un moment, mais c'est incroyable, le niveau sonore, c'est du détail. Et
les pixels sont magnifiques.
Ouais, voilà, et c'est très beau.
Et vous l'aurez compris que, quelque part, mais c'est même pas quelque part, le jeu vidéo, c'est un art, on est bien d'accord.
Absolument, absolument, plus que jamais.
J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler souvent dans cette émission, plus souvent qu'auparavant, parce qu'Apple... C'est pas forcément très fort le jeu. De mon côté, ce n'est pas dans le secteur du jeu. C'est en tout cas, on a parlé en début d'émission, mon coup de cœur, c'est bien sûr les AirPods Pro. On n'a pas consacré une émission puisque bon, on vient juste de les recevoir. Regardez, ils ne sont pas encore emballés. Nous sommes mercredi, ils viennent tout juste de sortir. On va essayer, allez, si on a le temps, on vous promet rien, de vous faire une petite vidéo de test comme font les grands YouTubeurs. On va essayer de s'y mettre, hein, on refait le Mac. Et vous proposer en parallèle de cette émission une petite vidéo de présentation de ces oreillettes à réduction de bruit intra-auriculaire. Je ne suis pas un grand fan de l'intra, donc c'est pour ça que je suis assez curieux d'essayer. Ça me rend un petit peu, je trouve ça intrusif, j'aime pas trop. On va voir ça, mais ça coûte quand même assez cher, autour des 280€. Oh, ça fait un peu mal quand même, mais ça arrive juste à point nommé. Ça tombe bien pour Noël, bien joué Apple. Voilà, c'est la fin de ce 350e épisode, messieurs, 350 épisodes d'Enfer le Mac. Déjà, Où sont les cotillons? Où sont les gâteaux d'anniversaire? Rien, vous n'avez rien prévu en régie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. On va peut-être parler de photos, parce qu'il y a le stand de la photo qui va se tenir bientôt à Paris. Ça va? Ça s'est bien passé, monsieur, pour une première?
C'est très bien.
Oui, bon, on reparlera de jeux vidéo très prochainement quand tu viendras notamment nous parler de ta prochaine production, c'est promis. Laurent, tu seras avec nous pour parler de photos?
Oui.
Bon, très bien, super. La semaine prochaine, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce et la petite cloche pour vous envoyer une notification qu'une émission est en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.